Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter pour une fois qu'on vous parle d'un palmipède et que ce n'est pas le canard enchaîné.
Vous êtes en direct, allez-y.
Oncle Picsou n'est pas né d'un dessin animé, c'est un héros de papier. Le canard le plus riche du monde fête ses 70 ans. Avec lui se racontent deux histoires, celle de la presse jeunesse, inventée par le journal de Mickey avant-guerre, et celle d'une mythologie américaine faite d'or et de capitalisme. Passionnant rapport à l'argent que celui du vieil avare à bec de canard. Figure plus complexe qu'il n'y paraît, mais que les gosses du 21e siècle lui trouvent-ils encore
extraordinaire ? Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour professeur Pierret.
Bonjour Sonia.
De votre vrai nom, Pascal Pierret, vous fûtes le 12e rédacteur en chef du journal de Mickey, parce qu'attention, c'est un palmarès en France, et patron de Picsou Magazine depuis près de 30 ans.
Voilà, c'est ça, 29 ans exactement.
29 ans. Et d'où vous est venu ce qualificatif de professeur Pierret ?
Oh là, alors c'est un qualificatif que je me suis attribué personnellement.
Ah bon, c'est ça, on n'est jamais aussi bien servi que voilà. Par soi-même quand on n'a pas les diplômes qui vont avec.
Oui, exactement.
Ça. Formidable. Enfin, il y a toute une communauté de fans inconditionnels de Picsou qui vous révère, mon cher. Allez, un petit peu d'actu pour commencer.
This is CNN, the most trusted name in news.
Time Warner sera-t-il obligé de vendre CNN ? La nouvelle est tombée hier. Le groupe de télévision s'apprête à fusionner avec le géant de la téléphonie, AT&T. Or, les autorités américaines ne valideraient ce mariage qu'à condition que la chaîne d'info sorte du lot. Revendue quand ? Et à qui les spéculations vont bon train aux États-Unis, d'autant que CNN, vous le savez, est le bouc émissaire de Donald Trump, qui l'accuse de matraquer des fake news à son encontre. L'Amérique encore et encore. Bonjour Iris Bray.
Bonjour Sonia.
Comment ça va? Iris qui regarde un peu essoufflé ce matin, oui, qui regarde la télé américaine pour l'instant même avec les sujets qui lui tiennent à cœur. Alors il est un bastion tenu par les hommes blancs de plus de 50 ans qui est en train de tomber, celui du Late Show, casse de troisième partie de soirée, un mix entre un talk show et une émission satirique sur la politique où l'animateur donne son nom à l'émission Late Night with Jimmy Kimmel. Late Night with Conan O'Brien, Late Night with.
Oui, voilà. Il y a vraiment dans cette sonorité du Late Night with, on s'attend à un moment quasiment érotique avec cet animateur. Et avec qui est-ce qu'on a passé presque 30 ans ? Et ben dans les années 60, ça a commencé par Johnny Carson qui était en costard et qui accueillait ses invités sur un sofa. Mm-hmm. Le format aujourd'hui, il a quasiment pas bougé, mais depuis 2 ans, une vague de nouveaux présentateurs transforme le petit écran américain et avec lui l'incarnation de la virilité américaine.
Alors dans les années 80 et 90, hein, parce que Johnny Carson c'est quand même de la vieille histoire, de la vieille télé américaine, il n'y avait vraiment que deux figures des Late Night Show. C'était David Letterman et Jay Leno.
Ouais, deux styles très différents, mais deux hommes qui respiraient cette masculinité de la toute-puissance et qui se balançaient sur leur fauteuil en cuir.
C'est tout ce qu'elle aime, Iris Bray. Voilà, allez-y.
En 86, lorsque le très chic Letterman pressait la chanteuse Cher en lui demandant mais pourquoi est-ce qu'elle a refusé de venir le voir pendant si longtemps, elle lui rétorquait « parce que vous êtes un connard ». Letterman se balançait alors sur son siège et prenait une taffe de son cigare. Sa dernière émission était en 2010, le même jour que la fin de la série Mad Men.
Tout un symbole. Alors, qui a pris la suite de Letterman et de Jay Leno ?
Des visages et des accents qui disent autre chose de la diversité américaine. Robin Thede sur BET est la seule femme noire à avoir son late night show. Avec elle, on rit d'une actualité qui devient racisée et genrée. Une première aux États-Unis et une utopie quand on pense à la France. Mais la nouvelle génération d'animateurs vient aussi troubler cette notion de virilité. Mm-hmm. Cette semaine, Jimmy Fallon a perdu sa maman et a décidé d'annuler toutes ses émissions. En octobre, Jimmy Kimmel s'autorisait à pleurer à l'antenne pendant presque 10 minutes pour parler de la fusillade de Las Vegas. En septembre, Stephen Colbert expliquait calmement à l'humoriste Jerry Seinfeld, fan de Bill Cosby, qu'il ne pouvait plus écouter les blagues de ce dernier, accusé d'avoir violé plusieurs femmes. Après la coupure pub, Seinfeld revient sur ses propos et dit que lui aussi, finalement, il ne pourra plus écouter Cosby de la même façon après avoir entendu les arguments de Colbert. Ils font donc tomber de son piédestal un titan de la comédie en direct, comme quoi même les hommes ne veulent plus rire de tout. Pour cela, il aura fallu d'abord alors que la télé américaine déboulonne toute une génération de ses porte-voix masculins.
Merci Iris, qui a fini par arriver jusqu'au studio. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle s'est fait peur ce matin. Alors l'Amérique de Picsou n'est ni racisée ni genrée, pour utiliser le vocabulaire d'Iris Bray. Elle est personnifiée par des canards. Mais que reste-t-il de cette patrie de l'oncle Sam, faite d'or et de coffres-forts?
Bonjour Aurélien, 10 ans sur France Inter. Je vais raconter l'histoire de Picsou. Il est très très riche. Sa somme d'argent va dans les 478 hectomilliards. Il ne veut jamais dépenser aucun sou. Et je l'aime un peu pour ça.
Voilà, il l'aime un peu pour ça. Il a 10 ans, il aime un canard très riche qui ne veut dépenser aucun sou. Le professeur Pierret est l'invité de l'Instant M.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je voudrais le journal.
Chaque mercredi, retrouve Donald, Cédric et tous tes héros préférés. En cadeau cette semaine, le coussin péteur de la ferme se rebelle.
Pascal Pierret, le journal de Mickey, né en 1934, et c'est l'invention de la presse jeunesse, déjà édité par Hachette hein, d'ailleurs en France.
Oui, alors c'est le premier grand hebdomadaire, on va dire, pour les deux sexes, parce qu'en fait l'histoire de la presse enfant en fait commence au 19e siècle, mais en fait c'est pour beaucoup des journaux pour filles. Alors très genre patronesse, quoi, vous voyez un peu ce que je veux dire, conseils de couture, de cuisine, comment élever un enfant, etc. Et en fait, c'est là-dedans qu'on trouve Bécassine notamment.
Oui.
Et voilà. Mais après évidemment, le grand hebdo moderne, en fait, on va dire, pour les années 30, c'est évidemment le journal
à
de
échelle
Mickey,
industrielle, avec une stratégie de presse moderne et un grand groupe derrière. C'est un monde résolument rigolo et optimiste, je l'ai dit. Hein. Vous en avez été pendant un long moment le rédacteur en chef. Picsou Magazine, lui, naît en 1972 en France. Vous aviez 9 ans, professeur, et vos parents vous offrent le premier numéro du magazine. Alors, il y a des familles où l'on interdisait la publication de ces saloperies capitalistes, manifestement pas la vôtre.
Eh ben, écoutez, je vous arrête immédiatement, vos informations sont fausses, parce qu'en fait, effectivement, je suis né le 22 février, et le journal est sorti le 21 février. J'espérais l'avoir en cadeau, évidemment, le lendemain. Mais en fait, non, mes parents ne m'ont jamais offert.
Ils vous l'ont refusé?
Mais oui, bien sûr, en fait, ils étaient assez anti-américain.
C'est vrai. Donc c'était une famille Pif Gadget?
C'était une famille, alors pas non plus Pif Gadget, c'était une famille beaucoup plus intello. Moi, mon père baignait dans le jazz, etc. Donc en fait, moi je lisais Jazz Magazine, on va dire derrière l'épaule de mon père, voilà, on va dire ça.
Oui, parce que Pif Gadget est né en 1969 et c'est le contre-feu, hein, évidemment, publié par l'Humanité pour ouvrir les enfants à l'idéal socialiste et pour protéger leur jeune cerveau de cette déferlante Disney, avec toute l'idéologie qui va avec.
Oui, complètement. Alors c'est ça qu'en fait, bon c'est vrai qu'on s'en rend pas immédiatement compte, mais par exemple dans Pif Gadget, toutes les BD sont scénarisées par des gens qui vont essayer de montrer, par exemple, on se souvient de Raon, l'homme préhistorique, et en fait va visiter différentes tribus pour analyser en fait comment les sociétés peuvent se construire de façon différente. Et donc c'est déjà une analyse, on va dire, sociale en fait, voilà, alors que ça se passe à la préhistoire.
Absolument, et, voilà. et très différente de la façon dont seront représentées les sociétés exotiques, indigènes, etc., dans lesquelles va se rendre Picsou, on va en parler. Alors évidemment, il y avait eu, hein, avant Pif Gadget, il y avait eu Vaillant, il y avait eu Les Illustrés du Parti communiste français bien avant-garde. On est bien d'accord que tout ça, c'est pas le tout début de la presse jeunesse, mais c'est la façon dont, évidemment, elle va se moderniser et s'industrialiser. Le Super Picsou géant est né en 1977, et aujourd'hui, ça reste le magazine le plus lu des 7-12 ans. C'est quand même le mystère qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui, Pascal Pierret. Alors, vous avez une longue histoire quand même avec Disney. Racontez-nous comment vous êtes entré à Disney, parce que vous y êtes entré par la porte la plus improbable qui soit, c'est-à-dire Métal Hurlant.
Oui, alors bon, moi je viens du fanzine, et en fait j'ai été engagé à Métal Hurlant par ce biais-là, et en fait Métal Hurlant à un moment a été racheté donc par Philippe Aki, et on s'est retrouvé à déménager au quatrième étage, au cinquième étage, il y avait le journal de Mickey.
Alors,
et
Philippe Aki,
Picsou Magazine.
Hachette,
voilà,
complètement, à l'époque, et donc vous vous retrouvez dans les mêmes locaux que Disney Magazine,
tout à fait.
Métal Hurlant, parce que normalement c'est comme l'enfer et le paradis de Dante, ça ne se croise jamais Métal Hurlant et le journal de Mickey.
Alors là, contrairement à ce que vous croyez justement,
alors, oui, expliquez-nous.
Voilà, par exemple, il y avait Hicham talent, qui était un dessinateur métal hurlant, oui. qui a fait deux hommages à Picsou Magazine. Oui. Et c'est par lui que j'ai connu le nom de Karl Barth, le créateur de Picsou.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Donc finalement, il y avait plus.
Il y a des liens en fait.
Voilà. Donc c'est en entrant chez Metal Hurlant que vous rencontrez l'équipe de Disney et que vous commencez à bosser avec eux. Alors on va raconter justement l'histoire de Karl Banks. En quoi ça a été un génie, Karl Banks, et comment il a fait naître Picsou? Parce qu'au départ, finalement, c'était qu'un personnage très secondaire.
Oui, alors c'est Karl Barks.
Ouais.
Alors je vous dis ça précisément parce qu'en fait, il y a une vingtaine d'années, quand je disais, on me demandait qui est le créateur de Picsou, je répondais Karl Barks et les gens me regardaient éberlués en pensant que c'était l'autre Karl. Vous voyez
ça,
ce que je veux dire?
C'est ça, que c'était Karl Marx, voilà. Et que vous bossiez à Pif,
voilà.
Gadget.
Alors moi-même, d'accord. J'étais éberlué d'imaginer que les gens pouvaient imaginer ça, ouais. En fait. Voilà.
donc Karl Marx. Oui. Voilà, donc 1947, c'est pour ça qu'on fête ses 70 ans. Je l'ai dit, personnage secondaire dans l'histoire de Donald Duck, mais qui très très rapidement, finalement, va avoir ses propres unes et son propre comic books aux États-Unis.
Oui, alors en fait, c'est vrai que donc Karl Marx reprend Donald, en fait, qui est un personnage d'animation principalement, et en fait, qui est un personnage un peu, on va dire, hystérique, c'est-à-dire qu'il se met immédiatement en colère dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et lui, en fait, va l'installer dans une vraie vie sociale, c'est-à-dire il va créer Donaldville, il va créer la ville, il va créer ses habitants, et il va installer un petit peu ce paysage, on va dire, dans la prospérité d'après-guerre.
Oui.
Voilà, en fait, où effectivement on est plein d'espoir.
C'est les 30 Glorieuses.
C'est les 30 Glorieuses qui s'annoncent, enfin, etc. Et lui, il va vraiment décrire tout ce paysage-là, quoi.
Alors, au début, il s'appelle Uncle Scrooge. Il a mis du temps à trouver finalement son nom. En France aussi. Il faut savoir quand même que son premier comics book aux États-Unis est toujours en vente. Aujourd'hui, c'est le numéro 435. C'est quand même assez, c'est assez... Mais il faut dire aussi que beaucoup d'autres dessinateurs s'en emparent très vite. Et pas seulement aux États-Unis, Pascal Pierret.
Oui, tout à fait. Alors, la chose très caractéristique, c'est que c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, donc quand vous parliez d'anti-américanisme, en fait, effectivement, toutes ces BD étaient produites aux États-Unis.
Oui.
Et puis, dans les années 60, quand les super-héros arrivent, en fait, les comics Disney aux États-Unis commencent à baisser en diffusion. Et à l'inverse, en fait, en France, s'installe vraiment une vraie tradition, et partout en Europe, en fait, sur les comics Disney.
Et donc, Italiens, qu'est-ce qu'ils ont, les Italiens avec Picsou?
Les Italiens.
Ça a été les premiers à tirer, hein.
Ouais, c'est ça. En fait, les Italiens, eux, ils sont assez énormes, parce qu'en fait, déjà, ils déforment un petit peu les personnalités des personnes. Mm-hmm. Ils les installent, en fait, un peu dans une commedia dell'arte. Donc, les archétypes sont
Paperone,
exagérés.
Il s'appelle
Dio Paperone, exactement.
D'ailleurs, il a des noms différents partout, hein. Il naît en 1963 au Brésil. Tio Patinias, 700e numéro du comics de l'époque. Ouais. En Amérique du Sud, il s'appelle Tio Rico. Dagobert Buck en Allemagne. Vujksnechna en Pologne. Et puis en France, d'abord, Oncle Harpagon. Donc on l'a ancré chez Molière, en fait.
Oui, un peu, bah oui. Ouais. Oncle Harpagon, Oncle Edgar, Oncle Homer. En fait, il a eu plusieurs noms comme ça, que même en Belgique, en fait, il a eu des noms différents. Et finalement, il s'est appelé Picsou, en fait, dans le journal de Mickey, principalement. Parce que, en fait, cette bande dessinée était un peu infantilisée, on va dire, pour plaire à un public beaucoup plus large.
Ouais.
Et donc, du coup, on trouvait des noms un petit peu comme ça, des jeux de mots, qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient attribués aux États-Unis au départ.
Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez du rapport de Picsou à l'argent. Et pour ça, on va écouter, Oncle Picsou, parler de ses sous.
C'est comme ça que je suis devenu riche, en faisant grandir les petites parts. L'argent ne doit jamais croupir. Comme les vagues de l'océan, il doit rouler, circuler. Comme les courants de l'océan font la pluie et le beau temps, la circulation de l'argent contrôle toute l'économie. L'argent doit rester en mouvement.
L'argent doit circuler, circuler de tous côtés. L'argent, ça doit circuler.
D'abord, les éditions Hachette martèlent toujours le même message. Non, Picsou n'est pas avare, il est économe.
Ouais. Alors.
Ouais. alors.
Non, c'est-à-dire que alors ça c'est le discours, par exemple, que je tiens.
Mm-hmm.
Voilà, mais effectivement, quand on lit la bande dessinée, on s'aperçoit que malgré tout, il est quand même radin.
C'est ça. Il est quand même totalement obsessionnel.
Voilà, exactement.
Et qui ne supporte pas de dépenser de l'argent. Comment amasse-t-il sa fortune, Pascal Pierret, Picsou? Parce que c'est là où ça devient très passionnant.
Alors, comment il amasse sa fortune? C'est-à-dire, déjà, il parcourt le monde à la recherche de tous les artefacts, trésors qu'il peut trouver. En fait, ce qui est intéressant avec Picsou, c'est que, comment dire, c'est pas, par exemple, son némésis Gripsou, lui, est vraiment un salaud. Mm-hmm. Voilà. Picsou, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est par la connaissance qu'il va pouvoir gagner de l'argent.
C'est là voilà. Où il est intéressant.
C'est ça où
Picsou.
Il est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il va explorer absolument, toutes les légendes antiques, tout etc., pour retrouver, par exemple, la toison d'or, plein de choses comme ça.
Et ce qui en fait un autodidacte qui arrive quand même assez haut dans l'échelle des connaissances et du savoir, parce que du coup, c'est quand même, il voyage dans le monde entier, il rencontre tous les grands personnages de son époque. Hein, il y a même des épisodes avec Theodore Roosevelt.
Oui.
Il parle absolument toutes les langues. Il a vécu sur tous les continents et il possède des objets antiques de très grande valeur, mais de valeur patrimoniale, pas seulement.
C'est un vrai musée. En fait, chez lui, il a une salle au trésor, en fait, qui est un vrai musée des antiquités, quoi,
C'est ça.
Mais de toutes ces antiquités que personne n'a trouvées, sauf lui.
Alors, il est parti de rien, Picsou. Il est parti d'Écosse.
Cette chère Écosse, j'avais oublié que c'était si beau.
Tu crois que la maison où tu es né existe encore, oncle Picsou ?
Je l'espère bien, vous savez, par ici, il n'y a guère de changement.
Alors, qui a été Don Rosa, Pascal Pierret ?
Alors, Don Rosa, c'est un fan de Karl Barks. En fait, c'est un enfant, donc, dans les années 50, il a une dizaine d'années. Et en fait, c'est un peu comme Spielberg ou George Lucas, qui ont aussi le même âge dans les années 50, et donc sont totalement fans des histoires de Picsou. Alors, il faut savoir que Picsou, dans les années 50, c'est le comic book qui vend le plus.
Ouais.
Plus que tous les autres. Et donc, à partir de là, donc Don Rosa, lui, est très, très obsessionnel, comme certains enfants lecteurs de Picsou, d'ailleurs. D'aujourd'hui. Et une fois adulte et qui commence à rentrer dans la bande dessinée et dans la bande dessinée Disney, il décide en fait d'analyser absolument toutes les bandes dessinées de Karl Barks, donc 6000 pages, c'est quand même pas mal, et de prendre tous les petits détails où Picsou dit « Ah bah oui, tiens, en 1907 j'ai fait ci, en 1898 j'étais là, nanana,
donc
etc. »
Donc il reconstitue la généalogie de la famille Picsou avec arbre généalogie à l'appui et toute l'histoire de cet enfant parti de rien qui a commencé comme cireur de chaussures, on a donné un sens au lieu de donner une pièce écossaise et qui s'est dit je me suis fait arnaquer, ça n'arrivera plus jamais, mon destin est en Amérique. C'est ça le sous-fétiche, c'est ça l'histoire du sous-fétiche. Et ça donne sept tomes qui aujourd'hui sont entièrement réédités chez Glénat. Qu'est-ce qu'il a apporté, Don Rosa, au personnage de Picsou ?
Alors, Don Rosa, il a apporté en fait une profondeur énorme et aussi plein de réponses à ce que tout le monde se posait comme question, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit, qui sont ses parents, qui sont ses grands-parents, pourquoi il est venu en Amérique, enfin, etc. Et puis, il a reconstitué, en fait, quelque chose qui est assez intéressant pour un lecteur de Picsou, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a amassé son premier argent, pourquoi et dans quelles conditions. Et ce qui fait qu'en fait, on rejoint la première question que vous me posiez, est-ce qu'il est radin ou économe? Et on comprend qu'il est aussi économe parce qu'il a vécu vraiment dans la précarité pendant très très longtemps.
C'est
comme
une grande lecture psychanalytique de Picsou. C'est ça l'histoire. Une des grandes devises de Picsou, Pascal Pierret, c'est « Work smarter, not harder ». Travailler plus intelligemment, pas plus durement. En fait, c'est l'anti-Sarkozy. C'est le contraire du travailler plus pour gagner plus. Il a un rapport au travail et à la richesse qui est très particulier, Rissou. Picsou, pardonnez-moi. Pascal Pierret.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, son rapport le plus particulier, on va dire, au travail, c'est celui, en fait, qu'il entretient avec Donald.
Voilà, son neveu. Qu'il considère comme franchement fainéant, non ?
Oui,
et indigne de beaucoup de choses. En tout cas, d'hériter de sa fortune.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Picsou souhaiterait vraiment que Donald devienne son héritier.
Mais
en fait, il ne le trouve pas assez comme lui. Donc, en fait... il entretient une espèce de rapport un peu particulier pour que Donald, finalement, se durcisse un peu et arrive un peu à devenir comme lui.
Merci beaucoup, professeur Pierret.
Merci.
Alors voilà, le Picsou, tout Picsou de A à Z, 20 histoires cultes, édition collector. En fait, c'est 400 pages en or massif. Je viens d'en offrir un à Élise Bray et un à Ali Rebéi.
Mais je suis super heureux. Mais moi, j'étais un grand lecteur de Picsou Magazine et de Super Picsou Géant. Mais je suis heureux d'avoir ce numéro-là entre les mains.
Ça n'a pas fait de vous totalement raté, ce qui me rassure pour mon fils de 10 ans que vous avez entendu tout à l'heure et qui refuse de lire autre chose, mais qui refuse totalement. Je ne sais pas si Hachette a prévu des programmes de déradicalisation pour les enfants qui sont complètement picouzés à Picsou, mais enfin, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup.